Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci d'être venu ce matin et de bon matin. C'est un vitaliste critique que nous recevons ce matin. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'École Normale Sup, membre du Comité National d'Éthique et votre dernier livre a donc pour titre « Pour un humanisme vital » paru chez Odile Jacob. 48 lettres écrites à une amie, une femme supposée inquiète de la tournure du monde et vous y dressez un diagnostic puis quelques réflexions philosophiques pour répondre aux dangers quotidiens qui nous guettent. Pour un humanisme vital, donc vous parlez aussi d'un humanisme critique, d'un bio-humanisme. En fait, ce que vous questionnez, c'est notre capacité à résister à la destruction de l'homme par l'homme. C'est ça le point de vue de départ?
Oui, alors si vous voulez, j'assume la notion traditionnelle d'humanisme, l'idée que les humains ont une caractéristique dans le monde, parmi les vivants, qu'ils partagent tous et qu'il faut défendre. Mais quand je parle d'humanisme vital, c'est justement pour dire aussi que cette caractéristique des humains parmi les vivants, elle est aussi fragile. Le vital, c'est pas pour moi, bien que je vienne de cette
c'est
tradition, l'élan vital, c'est pas la vie, c'est plutôt le minimum vital. C'est ce dont les humains ont besoin pour vivre, et c'est le fait que dans la spécificité des humains, il y a la rationalité, il y a la politique, mais il y a aussi des fragilités qui ne sont pas seulement la mort comme tous les vivants, mais la guerre, la violence, et qu'il faut y répondre par ce que j'appellerais moi des limites. Pour moi, l'humanisme vital, c'est pas un rêve global. Parfois on dit les bons sentiments, l'humanisme c'est les bons sentiments. Moi, c'est plutôt la prise de conscience des dangers et l'institution des limites. C'est pour ça que je dis plutôt le minimum vital, les minima vitaux qui nous permettent d'être humains dans ce monde et de répondre aux dangers, en effet, vitaux pour tout le monde.
Et ça se décline donc en frottant à l'actualité, on va en parler dans un instant, mais cet humanisme vital auquel vous aspirez, c'est pour résister à quelle forme de péril aujourd'hui?
Justement, la complexité des humains, c'est qu'ils ne se réduisent pas à un péril. Comme tous les vivants de la planète, on doit avoir peur de l'extinction de la vie sur la Terre, du réchauffement climatique, de problèmes de l'alimentation, de la respiration. Les dangers vitaux aujourd'hui vont jusque dans les choses qui auparavant semblaient aller de soi. On oubliait qu'il y avait de l'air là dans cette pièce. On ne sait même plus qu'il y a de l'air, mais il y en a. Est-ce qu'il est respirable? On mange évidemment aujourd'hui. On s'inquiète même de choses qui étaient auparavant totalement implicites. Mais ce n'est pas une raison pour oublier qu'entre les humains, il y a aussi d'autres dangers vitaux qui sont évidemment aussi l'injustice, la guerre, et des choses très, là aussi qu'on a tendance à oublier, dans les relations interindividuelles, par exemple l'humiliation. Les humains sont des êtres étranges, pardon, qui peuvent mourir de soif, mais aussi de chagrin, et parfois de traumatismes moraux et politiques, et même sociaux.
Est-ce qu'on est en danger de panique morale? Est-ce qu'il peut y avoir un spectre, même lointain, de guerre civile dans le monde dans lequel on vit?
Alors pour moi, la panique, qui vient du mot grec tout, le pan ceci, le pan cela. La panique, c'est toujours quand on pense qu'un danger est suffisamment important pour écraser tout le reste, pour écraser tous les autres. C'est vrai que s'il y a...
Comment ça arrive maintenant
parfois
avec l'écologie?
Ça peut arriver, absolument. Ça peut arriver, par exemple, s'il y a un incendie dans cette pièce, on va peut-être paniquer et peut-être même se piétiner pour sortir de cette pièce. Le rôle des institutions, c'est justement d'éviter la panique. La panique ne devrait être qu'une exception dans un monde où la préparation de tous les dangers doit être plutôt la règle. Et donc, il y a des panneaux, exit, sortie, etc. Dans nos sociétés, nous devons éviter la panique, parce que la panique, c'est aussi le chantage à la panique. Et on vous dit, voilà, le monde va s'écrouler, il y aura des millions d'êtres humains sur les routes, et on agite la peur, alors que les sociétés peuvent se préparer comme nous préparons les services d'urgence dans nos SAMU, dans nos hôpitaux. Et donc, vraiment, je pense que le vrai danger, c'est en effet la panique. C'est moins le danger global que la panique qu'il peut susciter, et nous pouvons y répondre.
Et pour éviter cette panique, vous faites drôlement confiance aux institutions. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive cette confiance envers les institutions, cette confiance que vous avez?
Alors, moi je l'ai d'une manière critique, évidemment, toujours. Je pense que les humains, les institutions ne sont pas des artefacts pour moi. Ce ne sont pas des constructions artificielles produites par des êtres coupés de la vie. Les institutions sont ce que les humains inventent pour rendre leur vie possible, et notamment pour éviter leurs conflits. Il y a des études de sciences cognitives qui montrent que si deux enfants jouent à un jeu, mettons un jeu de ballon pour prendre un exemple que tout le monde peut avoir en tête, et bien au bout d'un moment, leur conflit dans ce jeu, ils s'amusent mais ils vont se disputer, et à un moment il faut des règles, et l'institution c'est la règle devenue explicite, et évidemment c'est elle qui permet la paix. Maintenant, ça peut être compliqué, on va contester l'arbitre, etc. Et depuis le jeu de deux enfants sur une pelouse jusqu'à l'arbitrage au football et les contestations, il y a la construction d'institutions qui ne sont jamais parfaites, mais qui sont la condition de la survie. Donc la question, c'est évidemment des institutions justes. Mais sans les institutions, nous ne pouvons pas survivre. Et je pense que ceux qui critiquent les institutions aujourd'hui vont beaucoup trop loin. Si la branche sur laquelle nous sommes assis, et ce qu'il faut, c'est critiquer certains défauts de certaines institutions.
Mais quel type de défauts, par exemple?
Par exemple, évidemment, il y a des institutions non démocratiques, des institutions qui vont dans le sens de la guerre. Je pense que quand on est dans une dictature, on ne peut pas défendre les institutions. Le but des institutions, c'est de permettre la coexistence des humains sans sacrifier leurs différences et donc sans en évitant la guerre, mais en évitant aussi l'écrasement des uns par les autres.
Mais ce qu'il faut, des institutions mondiales avec une sorte d'instance globale dans le monde globalisé dans lequel on vit.
Au nom de cet humanisme vital, oui, que vous défendez dans le livre.
Il y a des dangers globaux. Est-ce qu'il faut des institutions globales? Oui. Est-ce qu'elles doivent être maximales? Non. Pour moi, il faut des institutions globales, mais absolument minimales. L'exemple qu'on peut prendre, et qui est décevant, c'est l'exemple des tribunaux internationaux contre les génocides.
Tous les TPI.
Voilà. Le génocide est un crime global. C'est ce qui interdit la coexistence de peuples entiers. Et on assassine les enfants dans les ventres de leur mère, précisément parce que c'est une haine globale qui rend la coexistence impossible. Curieusement, les humains n'ont pas réussi à construire un État qui interdirait ça. Et je pense que ce sera impossible, pour beaucoup de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais je pense qu'il y a une ambition de l'humanisme vital, précisément, c'est d'instituer le minimal. Et je crois qu'aujourd'hui, on nous fait peur avec la panique. On nous dit, par exemple, il y a des millions d'humains, on nous parle de grands remplacements. Moi, je suis contre le grand ceci ou cela, mais plutôt le minimal mais absolu.
Pour un humanisme vital, c'est donc le titre de votre livre, Frédéric Worms, qui paraît chez Odile Jacob. L'humanisme confronté à l'actualité aujourd'hui, ce dimanche, c'est la gauche française qui se divise à propos de la manifestation qui se tiendra aujourd'hui, manifestation contre l'islamophobie. C'est notamment la question de la place du voile qui est abordée, la question de la laïcité. Comment le philosophe qui prône un humanisme vital s'accommode-t-il du débat entre une laïcité radicale et une laïcité plus ouverte ?
Alors, d'abord, il est évident pour moi que le vrai danger dans toutes les religions, dans toutes les morales, dans toutes les politiques, c'est toujours la transgression de la norme entre les humains. Mais cette transgression, ce sont certains actes. Ce n'est jamais dans l'identité de certains ou dans le discours en général d'une religion ou d'une culture que se trouve le mal ou la faute. Toutes les religions, toutes les morales, la laïcité comme l'islam, le catholicisme ou le judaïsme, comportent deux facettes. Une facette d'organisation de la diversité et puis des gens qui le transgressent. Donc il ne faut pas confondre des individus qui commettent des actes, par exemple terroristes, au nom d'une doctrine et la doctrine elle-même.
Bah, vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas confondre islam et islamisme.
Exactement.
Merci, mais enfin, on ne vous a pas attendu pour faire une différence.
C'est quand même très très important.
Oui.
Et il faut définir les transgressions et par exemple sur le voile aussi, à quel moment, dans quel lieu le voile est-il une transgression? Je crois que l'humanisme vital consiste aussi à faire des distinctions. Parce que précisément, les humains ont un côté positif et un côté négatif. C'est ça, l'humanisme critique. Et c'est toujours assez difficile. Chaque religion s'est vue quand même elle-même, au nom d'elle-même, commettre des injustices. Il y a eu un des tribunaux qu'on a appelé l'Inquisition. On a voulu convertir de force. Au fond, chaque religion comporte ce que Bergson appelait de l'ouvert et du clos. Et je crois vraiment qu'il faut défendre l'idée que dans l'islam, comme dans toutes les religions, il y a une ouverture, il y a des universalistes, il y a évidemment des gens qui respectent les règles de la République. Et je crois que le danger derrière la peur du terrorisme, derrière la peur des migrations de masse, c'est toujours la globalisation au sens de la généralisation.
La généralisation, comment l'éviter également quand on parle d'immigration? C'est la question du moment. Le gouvernement Macron souhaite, et je cite le Premier ministre, reprendre le contrôle de notre immigration. Et ça va se traduire par un tour de vis supplémentaire, notamment sur l'accès aux soins des immigrés face aux abus. Face à tous ces abus, ces quelques abus, la réponse politique passe forcément par plus de sévérité.
Alors pour moi, bon, on vient de parler des institutions, Éric Delvaux, je pense vraiment qu'il faut des règles. Je pense que c'est absolument normal. On fait face à des problèmes majeurs et on ne peut pas, comme disait un premier ministre socialiste que je vais pourtant essayer de réhabiliter, parce qu'il disait justement aussi autre chose, on ne peut pas tout soigner ou tout régler.
Et donc il faut Michel Rocard,
Michel Rocard, oui, oui. Qui disait on peut pas accepter toute la misère du monde.
Et,
mais
il y a
juste,
il y a une fin de phrase aussi. Nous avons notre part à contribuer.
Qui nous amène à notre sujet, parce que je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de règles et de restrictions, bien sûr. On a besoin de dire qui on peut accepter à long terme ici, dans tel pays, en Europe, et comment on doit autrement aider le monde qu'en accueillant tout le monde dans un endroit donné. Mais il y a deux choses qu'il faut absolument avoir en tête, il me semble. D'abord, c'est le minimal. Même si, après, on ne peut pas accepter à long terme, il faut sauver les vies. Et je crois que la couverture médicale universelle, c'est un signal un peu risqué à envoyer, de dire qu'il y a des fraudeurs, de dire que c'est un danger de ne pas sauver le minimum vital des uns et des autres. En réalité, on s'aperçoit, par exemple, même au niveau social français,
même si cette aide médicale est effectivement parfois détournée de sa vocation.
Alors c'est ce que j'allais dire, on s'aperçoit, le comité d'éthique a vu passer des rapports, comme tout le monde, que dès qu'on parle de fraude, on oublie autre chose, qui est le non-usage. Dès qu'on fait un rapport sur les fraudes, on s'aperçoit qu'en fait, les pauvres en France, par exemple, les gens qui ont droit à des prestations, bien loin de frauder, ne s'en servent pas. Non pas le capital social, disent certains, l'accès est en fait aussi bloqué par de l'intériorisation de la misère. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, là aussi, que le minimum soit tout de suite un envahissement, certains disent une invasion, etc. Je crois au contraire qu'il faut assurer le minimum vital pour aussi sauver le minimum moral. Parce qu'il faut, et c'est mon dernier point là-dessus, c'est très très important, je crois qu'il faut un discours d'ensemble cohérent. Le risque en annonçant des mesures comme ça, qui sont parfois légitimes, hein, il faut des règles. Le risque, c'est le ton d'ensemble. C'est de dire immigration égale invasion égale danger. Je crois au contraire qu'on peut dire il y a un autre discours possible, qui est il faut certes limiter l'accueil, mais le principe, c'est de sauver les vies et d'avoir une politique globale de justice dans le monde.
Une autre question, Frédéric Worms, qui constitue des cas particuliers, mais qui concerne chacun, c'est la souffrance des femmes. Certaines meurent sous les coups, de toute façon la mort peut aussi être psychique. La comédienne Adèle Haenel a brisé le silence il y a peu de temps, elle a accusé de harcèlement sexuel le réalisateur Christophe Ridja, et elle appelle maintenant à soutenir Valentine Meunier, qui, elle, accuse de viol Roman Polanski. Accuser sans stigmatiser, hein, c'est un peu ce que dit Adèle Haenel d'une manière extrêmement nuancée, pour une remise en question plus large de tout un chacun.
Alors, vous savez, moi je défends l'idée que la démocratie est le régime le plus courageux que les humains ont inventé, parce qu'il ne lutte pas seulement contre les dangers objectifs, contre la misère ou la guerre, ce qu'elle fait aussi, mais la démocratie lutte aussi contre les dangers entre les humains, les injustices dont certains disent que c'est pas la peine, c'est secondaire, parce qu'il faut d'abord justement survivre, ce qui est vrai. Mais la vie humaine comporte aussi d'autres dangers, les injustices, on vient d'en parler, internationales, sociales, mais aussi, et c'est le progrès de la démocratie, les injustices entre les humains, par exemple entre les hommes et les femmes. Donc moi je prends comme un progrès de la démocratie le fait qu'on voit apparaître ces nouveaux problèmes. C'est embêtant, moi j'ai eu du mal à réaliser que ma fille et ma femme, je ne le savais pas à ce point-là, étaient embêtées dans la rue, même dans des quartiers tout à fait tranquilles de Paris, mais presque tous les jours. Et donc je pense qu'il ne faut pas en effet arrêter de poser des limites à ces... Les transgressions ne sont pas du côté des femmes, mais du côté de ceux qui agressent les femmes, évidemment. Et c'est pareil aussi pour le racisme, il me semble, et il faut toujours aller... Le problème, c'est jusqu'où faut-il aller trop loin ? Il faut aller un peu trop loin. Moi, par exemple, sur l'écriture inclusive, vous savez, j'essaye de faire attention, j'ai écrit des lettres à une femme, mais c'est justement pour manifester...
D'ailleurs, elle ne vous répond pas beaucoup. Hein.
Elle ne me répond pas, mais au moins...
C'est facile d'avoir une femme silencieuse.
Mais moi, j'assume une masculinité, il y a du masculin et du féminin dans l'humain, c'est aussi dans les livres. Bon, il faut en faire un tout petit peu trop. La question, c'est... jusqu'où aller trop loin. On aurait pu y revenir aussi sur ces manifestations sur l'islamophobie, mais sur les femmes, je pense qu'il faut en effet s'étaler très loin dans le sens de la violence à l'égard des femmes. Adèle Haenel a parfaitement raison de poser un geste qui va un peu loin en disant il faut pas non plus accuser tous les hommes. Là aussi, elle refuse la généralisation. Mais quand il y a transgression, il faut le dire, et ça va conduire à des institutions. Et les institutions ne tueront pas l'amour. Les gens ont peur comme ça, on dit voilà, je vais devoir demander la permission à chaque femme avant de lui offrir un verre, etc. Mais non, c'est juste qu'au contraire, on aura en face de nous non seulement d'une séduction à faire, mais aussi un respect et une personne morale à aimer. Et je pense que voilà, c'est la moindre des choses au fond.
Je suis un homme et rien de ce qui est exactement humain ne m'est étranger. Vous rappelez dans votre livre, sans le citer, mais enfin vous le rappelez, la sagesse du poète Terence. Or, cette sagesse politique est-elle encore sa place aujourd'hui dans l'urgence politique, dans l'urgence climatique notamment?
Mais on le voit partout. Et moi, c'est mon espoir aujourd'hui, c'est que des questions comme le climat, mais aussi, disons, la médecine, au sens large, le fait qu'on réalise que nous sommes des cerveaux, que nous avons une défragilité vitale, en fait, oblige à réfléchir à l'humain. Nous sommes face à un véritable tournant anthropologique. Et je pense qu'il faut, il faut en avoir conscience. L'humanité est réellement en train de prendre conscience de quelque chose. Il y a le climat, nous sommes des terriens. Il y a la médecine, il y a aussi Internet. On s'aperçoit aujourd'hui que les modes de communication changent. Le rapport entre les humains, c'est en effet très difficile de dire rien d'humain ne m'est étranger
quand l'humain disparaît un peu.
Quand l'humain disparaît un peu, c'est paradoxal. Beaucoup de gens ont pensé qu'Internet, la mondialisation, justement, rien d'humain ne nous est étranger. On est informé partout dans le monde de tout ce qui se passe. Et en même temps, non, ça canalise, ça sépare les humains. Donc, prenons conscience, je crois que les politiques devraient prendre conscience.
Cela dit, Frédéric,
la toile de fond, c'est un changement de l'humain.
Cela dit, cet humanisme qui est au cœur de votre livre, il n'est pas universel. On l'entend, on le lit tous les matins avec les tweets de Donald Trump. Il a confirmé cette semaine qu'il allait se retirer des accords sur le climat, les accords de Paris. Ça montre bien qu'il n'y a pas d'universalisme de l'humanisme.
S'il était donné, il n'y aurait pas besoin de le défendre. Il y a besoin d'humanisme parce qu'il y a parmi les humains des anti-humanistes. Et même, ils ont pris le dessus. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est des gens comme Donald Trump, bien sûr, qui défendent au fond la guerre. Parce que pour moi, le contraire de l'humanisme, soyons clairs, le contraire de l'humanisme, c'est pas le repli, c'est toujours la guerre. Il y a que deux alternatives entre les humains. Il y a le rapport de force ou bien la coexistence par des lois. Il y a les murs ou bien il y a les lois. Moi, on parlait des règles. Je pense que les humains ont besoin de lois et non pas de murs, parce que de toute façon, le mur, c'est donc avouer la nécessité de la guerre. Mais si l'humanisme était facile, il n'y aurait pas besoin d'écrire des livres, de faire de la philosophie, d'être ici. En réalité, on s'aperçoit bien que aujourd'hui, c'est l'anti-humanisme qui domine. Il y a une idéologie. Moi, j'ai très peur de ceux qui jettent de l'huile sur le feu, y compris sur certains micros, pas ici, mais un peu partout, malgré tout.
Il n'y a pas une tendance aussi beaucoup à diaboliser l'adversaire ?
Voilà, moi, je ne diabolise pas l'adversaire. Ce sont des êtres humains, mais je critique certains actes. Et je ne diabolise pas les personnes.
L'humanisme, si c'est considéré l'homme comme une priorité, vous allez vous mettre à dos tous les spécistes pour qui il n'y a pas d'hierarchie dans toutes les espèces vivantes.
Moi, je défends l'idée, en effet, ça a été un choix, pas forcément simple hein, d'assumer l'humanisme sur les questions écologiques. Je défends l'idée que pour sauver les vivants en général, y compris les animaux, il faut des institutions humaines. Et je pense que c'est par, en effet, des institutions internationales que nous pourrons aussi éviter des violences inadmissibles envers les animaux. Donc oui, il faut passer par l'humain et on ne contournera pas les relations entre nous, entre les humains.
Il faut passer par l'humain, y compris pour défendre les autres espèces vivantes. On lira tout ça dans ce livre passionnant, Frédéric Worms. Pour un humanisme vital, 48 lettres écrites à une femme qui s'inquiète de la tournure que prend le monde aujourd'hui. Lettre sur la vie, la mort et le moment présent. On soulignera deux fois le mot présent.
Merci
beaucoup, Frédéric Worms.
Merci à vous.
Le livre est paru chez Odile Jacob. Il est 8h39. Bonne journée.
Merci.